France Culture, un l'a fait.
Les deux mandats de Donald Trump n'ont pas seulement remis l'autoritarisme au goût du jour, ils ont également remis en circulation tout un vocabulaire politique qu'on croyait cantonné aux marges dans son entourage. Large, on reparle ainsi d'ennemis, de régimes d'exception, de limites du parlementarisme. Côté russe aussi, l'influence revendiquée de figures proches de Vladimir Poutine, telles que Alexandre Dougine, s'inscrit dans cette recherche d'un état fort et d'un ordre à défendre. Or, derrière ces usages contemporain, un nom revient avec insistance, celui du juriste du Troisième Reich, c'est son surnom, Carl Schmitt. Alors pourquoi Carl Schmitt fascine-t-il autant les extrêmes droites mondiales? Qui trouve-t-il pour penser l'État, l'autorité et les limites du libéralisme? Un invité ce soir pour nous éclairer, Jean-François Kervégan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe du droit public, professeur émérite à Paris 1, spécialiste donc de Carl Schmitt. Vous avez publié notamment en 2011 cet ouvrage intitulé « Que faire de Carl Schmitt ?» C'est chez Gallimard. Et plus récemment, « Puissance des droits, théorie, histoire et critique ». C'est aux presses universitaires de France. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir.
Le juriste ne peut-il pas devenir révolutionnaire malgré lui ?
J'en ai pris conscience pour la première fois grâce à un homme qui n'était pas juriste, mais qui, en raison de sa formation catholique, avait une compréhension très aiguë des formes et des processus, au sens d'une procédure réglée. Cette procédure bien établie subsiste même dans le conflit le plus âpre. Et le mot « ennemi » n'est pas un terme inhumain, bien au contraire. L'humanité s'arrête au moment où la distinction entre l'ami et l'ennemi est effacée et remplacée par n'importe quoi, par des utopies ou des illusions d'humanité.
Archive assez incroyable à écouter, hein. Carl Schmitt avait 93 ans, un enregistrement sur une cassette à l'été 1980, Jean-François Kervégan. Alors, on va revenir sur les termes qu'il a mobilisés, on va revenir également sur le personnage, la personne qu'il était, mais avant cela, comment expliquez-vous, en tant que philosophe, le retour à la mode, presque, dans certains espaces politiques de la pensée de Carl Schmitt aujourd'hui ?
Bien, vous avez déjà vous-même donné un certain nombre d'éléments. Carl Schmitt est aujourd'hui effectivement très présent. Ça ne veut pas dire forcément qu'on l'a beaucoup et bien lu, mais son nom est présent dans le discours d'un certain nombre de personnes qui sont, disons, dans la mouvance de l'extrême droite, notamment américaine, mais pas seulement. Mais il a aussi occupé une certaine place dans certains discours de gauche ou d'extrême gauche quelques années avant. Par exemple, le populisme de gauche dont Jean-Luc Mélenchon, à un moment, s'est fait le porte-parole en France. Il a un peu laissé de côté cette thématique maintenant. Lui était inspiré par des philosophes qui se référait directement à Carl Schmitt et à la célèbre distinction ami-ennemi qui a fait la notoriété de Carl Schmitt au-delà du cercle des juristes et des philosophes s'intéressant plus spécifiquement à son œuvre.
Quelques éléments biographiques pour tenter de comprendre qui était le personnage Carl Schmitt. On le surnomme souvent, je le disais, comme le juriste du Troisième Reich. Est-ce que cela est si vrai ?
Juriste de la couronne même. Kronjuriste. Alors, oui, c'est vrai au sens où, dès l'instant où il a rallié le régime national-socialiste quelques mois après la prise de pouvoir par Hitler, il a, si j'ose dire, mis les bouchées doubles pour faire oublier que sous la République de Weimar et jusque, pour ainsi dire, à l'extrême fin du régime, Carl Schmitt, qui était un juriste catholique conservateur, marqué à droite, si l'on veut, mais qui n'avait pas de sympathie particulière pour les nationaux socialistes, avait même préconisé l'interdiction du Parti national socialiste parce qu'il estimait que, comme le Parti communiste, le Parti national socialiste n'adhérait pas aux valeurs de la Constitution et que, par conséquent, il fallait l'exclure du jeu électoral, alors que les deux partis représentaient ensemble, en 1932, environ 50% des électeurs. Après 1933, donc, Carl Schmitt a fait... développer une suractivité pour faire oublier, sans d'ailleurs y parvenir totalement, ces positions passées, et pour effectivement acquérir des positions de pouvoir importantes au sein du régime national-socialiste, ce qu'il a en partie réussi.
Je voudrais vous faire entendre l'historien Johann Chapoutot qui revient justement exactement sur cette période, ce segment de son parcours.
Carl Schmitt est quelqu'un qui présente, comment dire, tous les avantages et tous les crédits, si vous voulez, pour devenir cet immense intellectuel du Troisième Reich, ce grand juriste du Troisième Reich, qui ne parvient pas à être parce qu'il se fait doubler sur sa droite. Hein, c'est le nazi défait, le nazi raté, Carl Schmitt. Il n'y arrive pas parce que, du point de vue institutionnel, la machine est maîtrisée par un de ses concurrents, qui est moins connu, mais qui est un juriste intéressant et assez brillant, qui est Hans Frank, qui deviendra ensuite gouverneur général de Pologne, donc un des acteurs majeurs de l'action Reinhardt et de ce que les nazis appelaient la solution finale. Alors Carl Schmitt en parle, parce que oui, il est raciste, oui, bien sûr, un peu comme tout le monde, si vous voulez, mais pas assez.
C'est troublant ce que dit Johann Chapoutot, a raison évidemment, mais troublant tout de même, puisqu'il parle de nazis ratés, de nazis défaits, et dans le même temps, on l'associe pleinement au nazisme, Carl Schmitt.
Oui, je souscris tout à fait à l'analyse de Chapoutot, bien entendu, qui est tout à fait exacte. Défait, mais pas totalement défait, puisque quand même, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1945, jusqu'au moment où les Russes sont entrés dans Berlin, il était professeur de droit public, il avait la chaire de droit public à l'université de Berlin, et il était par ailleurs conseiller d'État de Prusse. Ce qui lui valait, c'est lui-même qui l'a dit après-guerre, ce qui lui valait d'avoir une voiture de fonction avec un drapeau, avec la croix gammée qui l'ornait. Donc, lui-même a, après-guerre, bien entendu, si j'ose dire, dans sa stratégie d'auto-légitimation, tenté de minimiser le rôle qu'il avait eu, mais ce rôle a été important, même si c'est vrai, comme l'a dit
Johann Chapoutot,
même si c'est vrai, il y avait des plus nazis que lui qui lui ont fait reproche précisément et de son catholicisme et de ses prises de position avant la prise de pouvoir par Hitler.
Alors intéressons-nous maintenant à la substance de la pensée de Carl Schmitt. Le concept central, le concept peut-être que l'on identifie le plus, c'est cette distinction entre l'ami et l'ennemi. C'est même cette distinction qui fonde l'entrée en politique.
Oui, effectivement, c'est ce que l'on retient le plus souvent et la formule choc qu'il utilise dans le texte, la notion de, enfin traduit sous le, avec le titre « La notion de politique », qui date en fait ce texte de 1928, donc avant que Schmitt se rallie au national-socialisme. Cette formule, c'est dit que il y a une relation entre humains devient politique dès l'instant qu'on peut y observer une polarisation entre ceux qu'on définit comme ses amis et ceux qu'on définit comme ses ennemis.
Il écrit également la distinction spécifique du politique, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi.
C'est cela, c'est cette formule. Mais alors, Schmitt précise bien lui-même qu'il n'entend pas par là définir l'essence du politique, comme si l'essence du politique c'était l'inimitié, mais que c'est un critère, un signal. Dès l'instant qu'on voit, par exemple, un homme politique raisonner en disant « un tel, c'est pas mon adversaire, c'est mon ennemi », alors on est dans le politique et, si je puis dire, dans le dur du politique. C'est en tout cas sa thèse.
Mais c'est tout de même troublant, j'allais dire, pour les personnes que nous sommes acculturées à une autre forme de culture politique, c'est le cas de le dire, où pour nous, la politique se définit d'abord par une substance, par un contenu, un objet particulier, l'État, le pouvoir, la violence. Pour lui, non, c'est d'abord et avant tout une intensité et un rapport à l'autre.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle permet de rendre compte de certains états de fait, à savoir que la politique se déplace d'un objet à un autre. Par exemple, il fut un temps où on pouvait considérer que les questions économiques n'étaient pas des questions politiques. Et puis, il s'est avéré assez rapidement que les questions économiques étaient aussi un terrain d'affrontement. Et d'affrontements éventuellement violents, verbal et pas seulement verbal. Donc l'intérêt, me semble-t-il, de ce critère schmittien, c'est qu'il nous rappelle que la politique, c'est pas simplement la lutte pour la conquête du pouvoir de l'État, mais c'est beaucoup plus que ça et aussi beaucoup plus inquiétant que cela.
À quoi cela sert-il, Jean-François Kervégan, pour Carl Schmitt, d'avoir un ennemi, de définir, de pointer un ennemi? Est-ce d'abord, j'allais dire, pour faire corps avec le reste de la nation, pour être un peu mieux, un peu plus ensemble?
Je dirais, avoir un ennemi, ça vous permet d'abord d'être vous-même. Parce que vous allez vous définir contre cet ennemi. Alors évidemment, compte tenu des prises de position ultérieures de Schmitt, il y a eu de bons auteurs d'ailleurs pour dire, ah ben oui, en fait, dès le début, l'ennemi pour Schmitt, c'était le juif, et ça explique son évolution ultérieure. En fait, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne suis pas certain que l'antisémitisme ait été chez lui une motivation fondamentale au départ. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il en a rajouté et jusqu'à l'excès, jusqu'à devenir totalement écœurant après. Mais cette idée que l'ennemi me constitue moi-même, c'est-à-dire je me constitue contre, par exemple, son livre, donc La notion de politique, où il y a cette fameuse formule, commence par dire nous vivons sous l'œil des Russes. Aujourd'hui, pour nous, la question de l'ennemi est claire. L'ennemi, c'est le communisme. C'est l'Union soviétique, et c'est ce qui nous définit.
Cette distinction entre amis et ennemis, cette distinction schmittienne, c'est quelque chose que vous identifiez aujourd'hui dans la politique intérieure, extérieure, contemporaine des États-Unis?
Ils l'identifient eux-mêmes, à commencer par le président des États-Unis, qui raisonne véritablement en termes d'amis, en définissant des ennemis extérieurs, mais aussi des ennemis intérieurs. On l'a vu tout récemment lors des événements de Minneapolis, où les personnes qui ont été tuées par l'ICE, par la police, ont été aussitôt définies comme des criminels. Des ennemis, donc des gens qu'il était parfaitement légitime d'abattre. Ensuite, on a fait un petit peu marche arrière devant l'indignation généralisée, mais d'emblée, la réaction était celle-là. Ces gens-là sont des ennemis.
On doute cependant que Donald Trump, le président américain, ait lu Carl Schmitt. Alors comment ces idées-là ont pu lui parvenir au fond? Comment la pensée schmittienne a-t-elle pu percer la gangue du trumpisme?
Alors, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, hein, mais j'ai un petit peu cherché ce qu'il en était, et j'ai été moi-même surpris qu'un certain nombre d'intellectuels conservateurs, et notamment de juristes conservateurs, étaient depuis un certain temps des lecteurs et de Carl Schmitt, dont il s'appropriait certaines théories. C'est le cas, par exemple, si je peux donner quelques noms, d'Adrian Vermeul, qui est professeur à Harvard, et développe des théories juridiques, fort brillamment d'ailleurs, dans lesquelles on retrouve des thèmes qui proviennent directement de la lecture, c'est quelqu'un de très cultivé, très savant, de la lecture de Carl Schmitt. Même chose sur quelqu'un, Patrick Dienen, il n'est pas connu en France, mais Monsieur Vance, le vice-président américain, se présente lui-même comme un disciple. Il dit « c'est lui qui m'a formé ». Il est professeur de sciences politiques dans une université catholique. Et lui, très directement, dit « oui, il faut raisonner comme Carl Schmitt nous invite à le faire ».
Des chercheurs affirment par ailleurs que Peter Thiel lui-même, hein, qui a coopté J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, serait un grand, grand lecteur de Carl Schmitt. Continuons donc de sinuer dans sa
Peter
pensée.
Thiel dit, excusez-moi, Peter Thiel a cette formule « we have enemies ».
Nous avons des ennemis.
Nous avons des ennemis.
On continue donc dans le cheminement de cette pensée. C'est aussi une critique, la critique schmittienne, c'est aussi une critique du libéralisme, et une critique très profonde, en expliquant qu'au fond, le libéralisme se fourvoie en tentant d'édulcorer le conflit politique. Là, c'est une notion fondamentale.
Tout à fait. Dès 1923, donc bien avant 1933.
Là aussi, on est encore en pleine République de Weimar.
Absolument. Il publie un texte qui a été traduit sous le titre « Parlementarisme et démocratie », dans lequel il dit, contrairement à ce qu'on croit, parlementarisme et démocratie, le parlementarisme n'est pas démocratique. Le parlementarisme est libéral. Et qu'est-ce qui caractérise le libéralisme ? C'est que le libéralisme n'est pas capable de prendre des décisions. Le libéralisme, c'est une politique de la non-politique, une politique de la délibération, de la discussion permanente. Contre cela, il faut affirmer que la démocratie, c'est autre chose. Et c'est quoi la démocratie ? Eh bien, c'est un chef qui demande au peuple « Êtes-vous d'accord avec moi ? Oui ou non ?» Donc le plébiscite. Et c'est sa représentation de la démocratie. Et quelques années plus tard, dans la théorie de la Constitution, en 1928, il explique qu'en fait, ce qui ne va pas dans la Constitution de Weimar, c'est qu'elle est un mélange de deux éléments incompatibles, des éléments libéraux, par exemple la Déclaration des droits et des choses comme cela, et des éléments démocratiques. Et qu'il faut faire un choix. Ou bien on choisit du côté du libéralisme, et ça sera pas bien, ou bien on choisit la démocratie, mais alors il faut éliminer les composantes libérales de la République.
La critique par ailleurs très vive que Carl Schmitt formule à l'encontre du parlementarisme, c'est l'idée selon laquelle le Parlement est structurellement incapable de décider fort et rapidement lorsque l'unité politique de la nation est menacée.
Exactement. C'est sa conviction, et là, je dirais qu'il n'a pas changé là-dessus, avant, pendant et après son ralliement au national-socialisme. Le parlementarisme, pour lui, et il cite des textes des grands auteurs libéraux, Carl Schmitt était un grand savant,
un érudit.
Au passage, un grand érudit. Il cite, bien sûr, les grands libéraux du 19e siècle, Benjamin Constant, Guizot, etc. Il lit beaucoup les auteurs français, en disant, voyez, en fait, ce qu'ils veulent, c'est discuter, cette discussion n'aboutira jamais à rien. Il se réfère volontiers aux travaux à l'œuvre d'un contre-révolutionnaire espagnol, Juan Donoso Cortés, du XIXe siècle, qui lui, déjà au XIXe siècle, expliquait le libéralisme, c'est l'impossibilité de la décision. Et donc, contre le libéralisme, que faut-il ? La dictature. C'était les termes même qu'il employait. Et Carl Schmitt écrit en 1920 un ouvrage qui s'intitule « La dictature », qui est un ouvrage historique, mais qui, quand même, à travers une histoire très savante des évolutions du concept de dictature depuis la République romaine jusqu'à la dictature du prolétariat, nous conduit vers la conclusion que la seule alternative à la dictature du prolétariat, c'est une autre dictature.
Autre point en lien d'ailleurs, mais autre point tout de même de la pensée schmittienne, c'est d'ailleurs peut-être le point qui me passionne le plus parce que c'est celui qui résonne le plus vivement sans doute avec l'actualité. C'est la hiérarchie que Carl Schmitt opère entre le droit d'un côté et la politique. Pour lui, la politique est au-dessus du droit pour une raison simple, c'est que la politique est à l'origine du droit. Là où on a tendance nous-mêmes à penser, nous libéraux, j'allais dire, un peu neutre et mielleux, où là on a tendance à penser que le droit est un objet neutre, lui, à l'inverse, il explique bien que à l'origine de toute pensée juridique, il y a de la politique.
Absolument. C'est ce qui le singularisait parmi les juristes de l'époque de Weimar. Presque tous étaient des juristes positivistes, c'est-à-dire qu'ils considéraient que le travail du juriste, c'est d'analyser le texte, par exemple le texte constitutionnel, et de dire voilà, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Carl Schmitt a un point de vue totalement décalé par rapport à cela, puisqu'il dit au fondement de tout ordre juridique, il y a une décision politique. Et c'est cette décision à laquelle il faut se demander, est-ce que la superstructure, l'organisation de l'État, etc., est conforme à cette décision, ou est-ce qu'il y a des incohérences ? S'il y a des incohérences, il faut les éliminer. Ça veut dire, pour lui, concrètement, il faudrait éliminer les éléments libéraux qui, en quelque sorte, polluent la constitution démocratique de Weimar.
L'autre implication très très concrète, Jean-François Kervégan, c'est lorsqu'on est en situation de crise, lorsque l'unité politique est menacée, il faut écarter le droit, il faut le mettre à part. C'est la politique qui doit, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, reprendre ses droits.
Oui, si ce n'est que Carl Schmitt dirait peut-être, c'est pas écarter le droit, c'est en fait maintenir sa cohérence profonde
Maintenir sa cohérence même.
Contre les formes pseudo-juridique qui, en fait, empêche le droit de s'exprimer en sa vie.
Mais ça vous paraît honnête intellectuellement ? Vous hésitez ?
Je ne suis pas un schmittien. je pense que... Mais si vous voulez, par exemple, il existe dans notre Constitution, je veux dire la Constitution française, des éléments qui plaisaient beaucoup à Carl Schmitt. L'article 16. La possibilité que, dans des situations de crise, le président de la République assume les pleins pouvoirs. La possibilité, donc, d'une, même si le mot, on ne l'emploie plus parce qu'il est tabou, d'exercer une forme de dictature, certes pour une période limitée et dans des circonstances d'exception, mais le fait que tout régime doit impliquer, doit poser les conditions de ses propres marges, disons, doit poser ses propres marges, est pour lui essentiel au droit.
Sans aller effectivement jusqu'à la dictature, c'est tout de même Carl Schmitt un penseur, un grand penseur de l'état d'exception. C'est ça aussi qui l'intéresse.
Oui, 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 bien sûr, il est l'auteur d'une autre formule célèbre, est souverain celui qui possède, qui décide de l'état d'exception.
Est souverain celui qui décide de la situation d'exception. Il faut d'ailleurs raccrocher cette citation à une autre notion, celle de souveraineté. Comment aborde-t-il Carl Schmitt cette notion plus large de souveraineté ?
Alors il l'aborde, on peut dire tout au long de son œuvre, puisque c'est un juriste de droit public, donc la souveraineté est centrale, et il a consacré des travaux très érudits à l'histoire du concept de souveraineté, à Bodin, à Jean Bodin, à Hobbes, et à tous les penseurs qui ont forgé cette notion moderne de souveraineté, et l'idée que ce qui définit l'État, sa marque, comme disait Jean Bodin, c'est la souveraineté. Carl Schmitt... Alors, ce qui est particulier chez lui, c'est qu'il relie ce motif de la souveraineté aux origines théologiques du droit et de la politique moderne. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, le concept de souveraineté est une laïcisation du concept de la toute-puissance divine. Et le souverain, dans un monde laïcisé, eh ben, il est l'équivalent de Dieu. Et donc, il exerce comme Dieu sa toute-puissance. C'est ça qu'on appelle la souveraineté.
Et on peut d'ailleurs appliquer cette grille de lecture à de nombreux concepts, car il croyait, Carl Schmitt, au sacré dans le moderne, au sacré, au religieux même, qui persistait par-delà la modernité. Je vous pose la question que vous posez tout simplement en titre de votre ouvrage. Que faire de Carl Schmitt aujourd'hui ? Alors, comment le lire, l'aborder, le comprendre ? Que faire de cette pensée tout de même historiquement, dramatiquement compliquée, et dans le même temps, elle semble opérante à plein d'égards aujourd'hui pour comprendre, saisir le monde qui nous entoure.
Alors quand j'ai écrit « Que faire de Carl Schmitt », je ne pouvais pas, c'était en 2011, je ne pouvais pas imaginer ce qu'il allait advenir du destin de cette pensée dans la période actuelle. Et je dirais qu'aujourd'hui... ce qu'on peut faire avec Carl Schmitt, c'est d'une part le lire pour comprendre la manière dont raisonnent les idéologues de l'extrême droite contemporaine, et aussi peut-être trouver chez lui des moyens de dénoncer et de critiquer ces appropriations qui, très souvent, chez des gens comme Curtis Yarwin ou des autres idéologues à la mode de l'extrême droite, de la pensée trumpiste, repose sur des approximations, des simplifications. Carl Schmitt vaut peut-être quand même un peu mieux que les usages qui en sont faits par l'extrême droite actuellement.
Peut-on, cela signifie que, est-ce que l'on peut éventuellement retourner Carl Schmitt, retourner sa pensée du moins, c'est-à-dire... tordre aussi ses concepts et l'approche qu'il en avait, peut-être pour en faire un autre usage.
Je dirais que c'est ce que lui-même a essayé de faire, sans doute dans des intentions peu claires, plus exactement assez claires, des intentions d'autodéfense, en quelque sorte, par rapport à son propre passé et à l'image que cela donnait de lui. À la fin de sa vie, Carl Schmitt s'est complu à dialoguer avec des penseurs d'extrême-gauche. Il a écrit une théorie du partisan dans laquelle il analyse avec... passion, si l'on peut dire, la guerre de partisans, Cuba, le Vietnam, etc. Et on le voit prendre plaisir à dialoguer, ça a donné lieu à une petite publication, avec un journaliste qui se définissait lui-même comme maoïste. Et donc, d'une certaine manière, ce travail de retournement de la pensée, il l'a lui-même esquissé, s'était sans doute intéressé. Je pense que nous, qui n'avons pas...
Intéressé pour faire oublier son passé ?
Exactement, oui, ça c'est clair. Ce flirt, entre guillemets, avec des intellectuels de gauche ou d'extrême-gauche dans les années 60 ou 70, jusqu'à sa mort, le dernier article publié par Schmitt, peu avant sa mort, portait sur l'eurocommunisme. Et donc un phénomène qui certes n'a pas duré très longtemps, mais qui était c'est quand même révélateur de cela. Mais nous qui ne sommes pas qui n'avons pas le même besoin que lui de faire oublier un passé très sombre, eh bien je crois que nous pouvons trouver encore dans la lecture de Schmitt des éléments intellectuels pour repenser la démocratie sans oublier ce que l'on a tendance parfois à faire, la conflictualité inhérente à la démocratie, comme à toute politique. La démocratie a des ennemis, nous le voyons aujourd'hui, et il faut peut-être s'armer pour les combattre.
Merci beaucoup Jean-François Kervégan de ces explications et de ces précautions aussi qu'il nous faut prendre en abordant l'œuvre de Carl Schmitt. Merci d'être venu ce soir au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission ce soir, comme toute la semaine, comme toujours même, Rudy Ecken, Bruno Barada, Bertie Bourdon. C'était François Richer ce soir aux manettes, à la console, à la technique.